9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
La chronique Le Bistrot du Livre, en partenariat avec Cépage d'Encre et en compagnie de Françoise et Henri.
Bonjour Alexis.
Bonjour. Et aujourd'hui, l'histoire d'une voix. Une voix particulière, reconnaissable entre toutes. Une voix faite de mots simples, de répétitions ciselées et de longs silences. L'histoire d'une femme qui a traversé le XXe siècle en imprimant sa marque par l'écriture, le théâtre, le cinéma. Une femme aux passions multiples, aux engagements ancrés dans son époque, aux amours ravageurs, mais source d'inspiration. Une femme qui revisite sans cesse son passé dans la lointaine Indochine, qui trompait ses angoisses dans l'alcool et se dissimulait derrière de grandes lunettes improbables et des cols roulés légendaires. Son œuvre est un labyrinthe fait de cycles et d'échappées vers des terres inconnues ou rêvées, de souvenirs réels ou sublimés, des fictions autobiographiques ou des scénarios de ciné qui deviendront romans, à moins que ce ne soit l'inverse. Une créatrice qui a su faire de ses lieux de vie des mythes bien avant sa mort. Nofle-le-Château, une maison dont elle disait connaître chaque pierre, chaque fleur, même les plus sauvages. Trouville et son appartement Les Roches Noires. Une femme qui n'hésitait pas à faire scandale en osant écrire sur un fait divers, se faisant accusatrice, mais avec des mots à elle. Sublime, forcément sublime.
Son nom, là aussi toute une histoire, Marguerite Donadieu, plus connue sous le nom de Marguerite Duras.
Duras, le nom d'une petite commune du Lot-et-Garonne, terre natale de son père, décor de son premier roman paru en 1947, Les Impudents. Duras, son nom d'auteur, adopté à cette époque pour signer ce premier livre.
Maud ouvrit la fenêtre et la rumeur de la vallée emplit la chambre. Le soleil se couchait. Il laissait à sa suite de gros nuages qui s'aggloméraient et se précipitaient comme aveuglée vers un gouffre de clarté. Maud resta un moment à la fenêtre, les bras étendus sur la rampe du balcon, la tête penchée, dans une attitude semblable à celle d'un enfant oisif. Mais son visage était pâle et meurtri par l'ennui.
Et pourtant, au départ, nous sommes loin, bien loin du sud-ouest. L'histoire commence dans l'Indochine coloniale du début du XXe siècle. Les parents de Marguerite sont enseignants près de Saïgon, qui ne s'appelle pas encore Vietnam. Elle a 7 ans lorsque son père meurt en France et sa vie alors sera faite d'aller-retour entre la France et l'Asie. Sa mère retournera enseigner au Cambodge, au Vietnam, tentera de faire fortune en achetant des terres sur le delta du Mékong, mais ce sera un désastre. Terre inculte, saturée de sel, mais source d'inspiration pour l'un des plus fameux romans de Marguerite Duras, À barrage contre le Pacifique.
Il leur avait semblé, à tous les trois, que c'était une bonne idée d'acheter ce cheval. D'abord, c'était une idée. Ça prouvait qu'ils pouvaient encore avoir des idées. Puis, ils se sentaient moins seuls, reliés par ce cheval au monde extérieur, tout de même capables d'en extraire quelque chose de ce monde, même si ce n'était pas grand-chose, même si c'était misérable. Cela dura 8 jours. Le cheval était trop vieux, un vieillard centenaire. Il essaya honnêtement de faire le travail qu'on lui demandait et qui était bien au-dessus de ses forces depuis longtemps. Puis, il creva.
Un roman sur la désespérance et la ténacité, à l'image de cette mère qui se lance dans la construction de barrages pour protéger ses terres. Des barrages comme des illusions, des mirages, comme pour se protéger de l'inéluctable. À bientôt la décolonisation, le retour définitif en France, le temps des études, puis le temps de la guerre. Elle y rencontrera son premier mari. Elle accouchera d'un enfant mort-né qui la marquera à jamais. Son mari sera arrêté, déporté. Elle ira frapper à la porte de la Gestapo pour le faire libérer. Rencontrera la résistance avec entre autres un certain Morland, alias François Mitterrand. Et puis se rapprochera du Parti communiste avant de s'en écarter. une sorte d'errance personnelle et politique, mais toujours avec la compagnie des hommes, toujours avec des engagements affirmés, comme son combat contre la torture en Algérie, le droit à l'avortement, ou auprès des étudiants en mai 68, et des livres bien sûr, des romans, et une écriture qui s'allège pour trouver ce ton si particulier, cette marque de fabrique quitte parfois à se caricaturer elle-même, n'en déplaise à tous ces turiféraires qui n'acceptent pas la moindre critique de leur idole, n'empêche, le style Duras parfois vire au pastiche de Duras par elle-même, jugement sévère, forcément sévère, mais un style en fait qui va ouvrir d'autres perspectives au travail de Marguerite Duras.
Un homme, il est debout, il regarde la plage, la mer. La mer est basse, calme, la saison est indéfinie, le temps lent. L'homme se trouve sur un chemin de planches posées sur le sable. Il est habillé de vêtements sombres. Son visage est distinct. Ses yeux sont clairs. Il ne bouge pas. Il regarde. La mer, la plage. Il y a des flaques, des surfaces d'eau calme isolées. Entre l'homme qui regarde et la mer, tout au bord de la mer, loin, quelqu'un marche. Un autre homme. Il est habillé de vêtements sombres. À cette distance, son visage est indistinct. Il marche. Il va. Il vient, il va, il revient. Son parcours est assez long, toujours égal. Quelque part, sur la plage, à droite de celui qui regarde, un mouvement lumineux, une flaque se vide, une source, un fleuve, des fleuves sans répit alimentent le gouffre de sel. À gauche, une femme aux yeux fermés, assise.
Une écriture, une voix qu'a immortalisé Delphine Seyrig, qui a été un petit peu le double de Marguerite Duras au cinéma. Ce que l'on vient d'entendre, ce sont les premières lignes de l'amour de Marguerite Duras. Alors je parlais avec un petit peu de légèreté, de caricature, mais en fait, cela ressemble à s'y méprendre à un storyboard, un scénario de film, où chaque plan est écrit, détaillé, scruté. Car voilà l'autre chemin que va prendre Duras, le cinéma. Avec plus ou moins de succès. Nous sommes dans les années 70. Il y a eu en 69 son premier film, La Musica, tiré de l'un de ses textes, puis Détruire, dit-elle, et Indian Song, film tourné en Inde, comme son nom l'indique. Mais surtout, on y trouve là toute l'aventure de Duras dans le cinéma, qui ne veut pas faire une simple narration avec des images, non, mais qui explore des champs nouveaux que lui offrent la caméra et la bande-son, ce qu'elle appelle le film des voix, et le film des images. En effet, les personnages ne parlent jamais en son synchrone. Leurs paroles ne sont accompagnées d'aucun mouvement des lèvres. Et là encore, Duras va déchaîner les passions entre les inconditionnels qui crient au miracle et les sceptiques qui dénoncent un certain snobisme intellectuel. Duras a l'art d'allumer les passions, et pas simplement avec les hommes. Mais il n'y a pas que le cinéma. Le théâtre aussi l'intéresse. Elle connaîtra un très grand succès à la même époque avec une superbe pièce incarnée par la pétillante vieille dame qu'était Madeleine Renaud dans la pièce « Des journées entières dans les arbres ». Énorme succès qui précède de peu ce qui fut son chef-d'œuvre, couronné d'ailleurs par le Goncourt, nous sommes en 1984, cocktail parfait d'une écriture limpide et d'une sensualité absolue.
Elle lui dit « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas ». Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. Il la regarde, épouvanté. Il demande, c'est ce que vous voulez? Elle dit que oui. Il dit qu'il est seul, atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi, elle est seule. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi, nue, jusqu'au lit. Et alors, il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire elle. Elle le fait, elle le déshabille. La peau est d'une somptueuse douceur.
Un extrait de L'Amant, bien sûr. L'Amant, publié en 84, lauréat du Goncourt, énorme succès en librairie, qui fera de Duras une star. Mais un succès au goût amer, entre naufrage dans l'alcool, déchirement amoureux, solitude et déception, comme avec cette adaptation du roman en film par Jean-Jacques Haneau, qu'elle condamne et qui l'amènera à réécrire le livre en 91 sous le titre « L'amant de la Chine du Nord ». Et puis il y a aussi 85 et sa tribune qui fera scandale dans Libé, Libération, à propos de l'affaire du petit Grégory, l'affaire Villemain, où la mère est accusée d'avoir noyé son enfant avant d'être innocentée. Au plus fort de l'affaire, Marguerite Duras écrira son désormais célèbre « Sublime », forcément sublime. Une chronique où elle se dit intimement convaincue de la culpabilité de la mère et donnera à sa chronique une dimension de tragédie grecque. Reste pour clore ce survol de l'œuvre de Marguerite Duras, survol trop rapide, mais qui, je l'espère, vous donnera l'envie de vous plonger dans cette écriture si singulière, reste à retrouver la voix, une voix si particulière aussi, un rythme des silences que l'on retrouve dans son œuvre. Ici, Marguerite Duras revient sur une de ses déclarations qui, comme beaucoup, à l'époque, avait fait parler. « Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. Je ne m'occuperais de rien. Si j'écris, c'est que je n'avais pas cette force de ne rien faire. »
Quand je faisais des livres, je ne pense pas que j'en étais là, non. J'en ai été là lorsque j'ai cessé de faire des livres, pratiquement. Je veux dire, lorsque j'ai cessé d'écrire tous les jours et que j'ai fait des films. Seulement, quand j'ai cessé d'écrire, j'ai cessé quelque chose de... Enfin, la chose la plus importante qui m'était arrivée, c'est-à-dire d'écrire. Mais les raisons que j'avais d'écrire à l'origine, je ne les connais plus. Peut-être rejoignait-elle celle-là. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde n'écrit pas. J'ai une admiration secrète pour les gens qui n'écrivent pas, bien sûr.
Bien sûr. La voix de Duras s'est éteinte en 1996. Elle avait 81 ans. Sa bibliographie, bien sûr, vous la retrouverez sur le site de la radio, à la page du Bistrot des Livres. Et maintenant, sur le comptoir des livres, des lecteurs, Françoise, un titre qui peut être une autre version, je ne sais pas, de « À la recherche du temps perdu ».
Hey, pas mal. Alors, ça s'appelle « Les temps perdus » de Juan Pablo Villalobos. C'est un livre irrévérent et salutaire. Alors, l'auteur a 42 ans, il est mexicain et vit à Barcelone. Il nous emmène à Mexico pour ce roman. Au premier plan, un vieil immeuble délabré dans lequel s'agitent les personnages principaux. Il y a les cafards qui envahissent l'immeuble et un groupe de vieillards décatillés et entêtés, obnubilés par des ateliers de modelage demi de pain ou d'analyse sémantique de la proustienne recherche du temps perdu. Et Théo. Théo, c'est un homme fantasque, indépendant, ex-vendeur de tacos douteux, qui passe sa retraite à noircir des carnets et refuse l'appellation d'écrivain que veulent lui coller les voisins, à nourrir des fantasmes pour Francesca et quelques autres, à chasser des vendeurs importuns et les cafards, et à boire avec beaucoup, beaucoup d'abus, bière et whisky. S'en suivent des querelles de voisinage hilarantes, des dialogues de haute tenue, et l'écriture est déjantée, mais pas que déjantée. Parce que régulièrement, il y a des chapitres qui s'attardent sur l'enfance de Théo. Et là, l'écriture est sensible et elle nous touche très autrement. Ainsi, entre rire et émotion, Juan Pablo Villalobos nous raconte l'histoire contemporaine du Mexique. Révolution et contre-révolution, crimes d'État, marginalité, drogue. Avec comme fil rouge qui traverse l'histoire, le chien. Un chien qui peut être adoré par la mère de Théo et qui finit étouffé par un de ses banilons, ou celui utilisé pour farcir les fameux tacos douteux. Voilà, alors ça s'appelle « Les temps perdus » de Juan Pablo Villalobos, traduction de Claude Bleton, et c'est édité par Actes Sud.
Mais toujours chez Actes Sud de mon côté, un polar qui est beaucoup plus qu'un polar. Il est signé Victor Del Arbol, « Toutes les vagues de l'océan ». On pourrait dire « Toutes les vagues du XXe siècle qui ont projeté les hommes dans les chaos de l'histoire ». Tout commence à Barcelone en 2012, un enfant enlevé, assassiné, noyé dans un lac. Cela nous entraîne dans l'arrière-cour d'avocats affairistes, de tueurs à gages de l'Est qui régentent tout, de la prostitution à la drogue. Puis vous vous retrouvez en 1933 dans les camps d'internement de Staline, où là encore l'horreur se drape dans les oripeaux de l'histoire, comme pour justifier l'abomination, la lâcheté, l'innommable. Et l'on s'aperçoit que l'histoire n'est qu'un long fil qui enchaîne les hommes. On appelle cela le destin. Un fil qui court à travers les générations et personne ne peut échapper à son destin. Et s'en suivent des histoires croisées qui finissent par n'en faire qu'une. Militant républicain, idéaliste rêvant d'un communisme révolutionnaire, enfant soldat d'Afrique, tous se croisent et se déchirent. Tout se tient en une logique implacable. Et qui plus est, Victor Del Arbol a un talent tout à fait remarquable de portraitiste. Capter au plus près, par exemple, la détresse d'une femme internée dans un goulag, mais dont les viols, humiliations, sévices n'altéreront ni la beauté, ni la force de caractère. Ou en contrepoint, cet homme, avocat moyen de Barcelone, écrasé par l'arrogance de son beau-père, étouffé dans le ronron d'une vie sans relief, qui se révèle et fait revivre en lui la force et la détermination léguées par son propre père. L'intrigue est sans concession, mais le plus important n'est pas là. Le plus important réside dans l'écriture. Le propre d'un bon roman, me direz-vous. Respect, Seigneur Arbol. Toutes les vagues de l'océan, Victor Arbol, chez Actes Sud, dans la collection Actes Noirs, avec là encore une très belle traduction de Claude Bléton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
Merci Françoise, merci Henri.
Merci, merci.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.